Le Seigneur, il m'a parlé pour un passage qui est différent de la série qu'on est en train de faire, puis je pense que ce but-là pour lequel il veut que j'apporte ce message-là, ça a le rapport comme on part une nouvelle année. Puis il y a des prises de conscience qu'on va faire en lisant ce psaume-là, parce que ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le psaume 52. Puis, ce psaume-là, David, le roi David, qui a été inspiré par Dieu pour écrire ce psaume-là, mais c'était quelque chose qu'il vivait, qu'il avait vécu. Puis c'était quelque chose de terrible parce qu'il était persécuté par Saül, qui était le roi, puis qu'il n'a pas voulu débarquer comme roi quand Dieu l'a rejeté. Puis là, à plusieurs reprises, il a essayé de tuer David. Puis David, il nous a donné ce psaume-là comme... On va voir là-dedans qu'il explique ce qui se passe dans sa situation, puis en même temps, il nous donne comme la recette pour vivre une vie épanouie, une vie qui fleurit devant le Seigneur. Dans le titre du message, c'est dans le psaume 52, « Une marche pour la floraison ou pour la destruction ». Parce qu'on va voir que ce que David nous a écrit là, dans ce texte-là, ça a une instruction profonde. Puis les Juifs aussi, qui étaient beaucoup attachés aux psaumes, les Juifs, c'était eux autres qui les ont chantés pendant des siècles, les psaumes, ça en était comme dans leur foi, dans leur religion, quelque chose d'important, ce psaume-là. Il y avait plusieurs psaumes qui avaient des grands enseignements. La question qu'on se pose, êtes-vous de ceux qui veulent une croissance dans la vie chrétienne? Qui veut rester un bébé dans le Seigneur? Personne. On veut tous devenir des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui marchent dans la puissance de Dieu, qui produit beaucoup de fruits pour Dieu. Et amen là-dessus. Merci. Dieu, il voit nos cœurs. Puis, lui-ci, il veut qu'on arrive là. Puis, il veut nous amener là. Mais dans ce psaume-là, on va voir qu'on a des décisions à prendre dans notre vie pour arriver là. Oui, Dieu veut le faire, puis il nous appelle il veut, le Saint-Esprit, il veut nous transformer, mais on va le voir dans ce psaume-là, que tu peux prendre des décisions dans ta vie, puis ça t'amène dans le chemin complètement contraire de la croissance et le fruit. Savez-vous que pour être bénis de Dieu, nous devons nous ranger, premièrement, nous devons nous ranger sur le côté de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Jésus. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Il y a plus de monde qui ne suivent pas Dieu que de monde qui suivent Dieu. C'est qu'il y a des gens qui, c'est comme si soit qu'ils ne savent pas, ou soit qu'ils s'en foutent, ils ne veulent pas se soumettre à un Dieu. Parce qu'il y en a qui y croient, mais ils ne veulent pas. Puis ils se privent. Le fait de pas s'engager à suivre Jésus, c'est une décision qui te fait que tu es privé de la gloire de Dieu. On l'est déjà en partant, privé de ce que Dieu aurait pu faire en nous. C'est pas que Dieu voulait pas sauver tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde. Mais il faut prendre la décision d'aller à Dieu pour recevoir sa bénédiction. Quand tu es là, tu es à la meilleure place pour être béni puis que ta vie soit dans l'abondance que Dieu veut te donner. On doit premièrement se ranger sur le côté de Dieu, puis deuxièmement, prendre des bonnes décisions pour notre croissance spirituelle par la suite, une fois que tu es avec Dieu. Parce que, je le sais par expérience, tu peux être chrétien, puis être encore rebelle à Dieu. J'étais moi-même dans des moments dans ma vie où je savais carrément que Dieu m'appelait à faire quelque chose, puis je ne le faisais pas. Ça a pris du temps avant que je me soumette. Tu le sens dans toi, tu le sais, le Saint-Esprit te le montre. Si tu es en contact avec lui, il te parle, tu entends sa voix, puis il te parle de différentes façons. Puis il y a des affaires qui te reviennent, puis Dieu veut te montrer quelque chose, mais il veut que tu avances. Puis si on n'avance pas, on est... peut-être pas aussi rebelle que celui qui veut rien faire pour le Seigneur, mais on est quand même rebelle. Puis on se prive de bénédiction. Le Seigneur nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier des plus grandes. Si tu veux grandir dans le Seigneur, tu n'as pas le choix. Il faut que tu décides de marcher avec le Seigneur, prendre les décisions quand il te les montre, puis tu avances avec le Seigneur. On va voir dans le psaume de David, c'est le psaume 52, je vous invite à aller tourner dans ce psaume-là. C'est un petit psaume de 9 versets, mais on va méditer là-dessus aujourd'hui. Que ce psaume de David-là, il nous encouragera à prendre de bonnes décisions pour notre croissance dans le Seigneur. Dans la première partie, on va voir deux hommes que, je vous donne ça comme idée pour que vous puissiez comprendre le sujet quand on va le lire. Il va nous montrer deux hommes qui ont pris des mauvaises décisions puis qui se sont mis à travailler contre Dieu. Puis en ont eu des conséquences. Puis on va voir aussi David là-dedans qui s'exprime comme étant celui qui est béni de Dieu puis il dit comment faire pour être béni. On va partir à partir du début. Au chef des chants, cantique de David. À l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, « David s'est rendu dans la maison de Chimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien. » Le mensonge plutôt que la droiture. Pause, parce que c'est une chanson, il y avait une pause. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours, puis te saisira, puis t'enlèvera de ta tente et te déracinera de la terre des vivants. Pause. Les justes le verront, puis auront de la crainte, puis feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Comme je vous disais au début, ce psaume-là est important pour les Juifs. C'est un des 8 psaumes que la tradition juive rapporte au temps de la persécution de Saül. Ces psaumes-là, là, ils parlaient que David a été inspiré. Ils ont été écrits dans le temps que Saül persécuta David. Comme pour ceux qui ne le savent pas, Saül était le roi d'Israël, le premier qui avait été choisi au loin par Dieu pour être le roi d'Israël. Puis il s'est rebellé contre Dieu, il vivait tout croche, il prenait de mauvaises décisions. Puis il a été rejeté comme Dieu, comme roi. Puis Dieu s'est retiré de lui, il l'a abandonné. Le Saint-Esprit, Dieu s'est retiré, puis même un esprit mauvais venait le tourmenter. Puis, dans le même temps où ce que lui est encore sur le trône, parce qu'il est encore vivant, même s'il a été rejeté, il voulait pas lâcher le trône, Dieu a fait que David soit oint comme roi pour Israël. Sauf que David n'a pas pu prendre sa place sur le trône, parce que l'autre, il laissait pas la place. Puis, à plusieurs occasions, le roi Saül a cherché à tuer David. Il courait après. Avec une troupe, une armée, puis David est obligé de se sauver d'un caverne, puis dans le désert, puis même parmi d'autres peuplades qui étaient d'autres peuplades qui n'étaient pas le peuple d'Israël, puis il s'en allait ailleurs, parmi même les ennemis d'Israël, puis il vivait là, puis pour sauver sa vie, il fuyait le Saül qui était un méchant, qui a mal tourné, il était rendu contraire à la volonté de Dieu sur toute la ligne. Puis ce psaume-là, en réalité, il y a 8 psaumes qui ont été écrits. J'aurais pu vous donner les numéros, je les ai chez nous. Il y a 8 psaumes qui ont été écrits à l'occasion de cela, des contextes que David a mis ça dans les psaumes inspirés par le Saint-Esprit pour parler de ce qui se passait entre le roi Saül puis lui. C'est un conflit-là qui était là. Puis c'est Dieu qui avait tassé Saül. C'est Dieu qui avait oint Saül pour être roi. C'est Dieu qui a tassé Saül pour qu'il soit débarqué parce qu'il était trop pécheur. Puis c'est Dieu qui avait oint David pour être à sa place. Mais ça a pris du temps avant qu'il puisse prendre sa place, je pense, ça a pris comme 7-8 ans avant qu'il puisse se rendre puis prendre son trône. Puis que c'est Dieu qui a tassé Saül dans une guerre. Mais là, il explique ses combats, puis c'est ce qu'il vivait dans ce, David, dans ce psaume-là. Puis, des psaumes auxquels on a reconnu en leur donnant le nom de Masquil, si les Juifs appellent ça les psaumes, ces huit psaumes-là, Masquil, puis ça a une valeur éducative spéciale. C'est que les gens, les Juifs reconnaissent que ce psaume-là, c'est donné par Dieu pour nous donner une instruction importante dans notre marche avec Dieu. On commence au début dans le psaume 52, le verset 1. On va comme faire un petit survol à travers de ces 9 versets-là. Au chef des chants cantiques de David, à l'occasion du rapport que Doeg l'Édomite vint faire à Saül en lui disant, « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. » Pour faire une histoire courte de ce qui s'était passé, c'est que Saül, il poursuivait David, puis David était rendu affolé, il fuyait, parce que là, il savait que son arrêt de mort avait été signé juste un petit peu avant. Le roi Saül avait fait un gros repas, un gros banquet, puis le fils de Saül, Jonathan, il était ami avec David. Il aimait David, ils s'aimaient tous les deux, là, de tout leur cœur. C'était deux grands chums. Puis là, pendant la première soirée, David avait été invité, lui-ci, mais son père, le père de Jonathan, son père, qui est Saül, le roi d'Israël, lui, il voulait tuer David. Puis là, David, il savait, parce que là, ça faisait plusieurs fois que ça l'arrivait, puis il avait peur d'y aller au repos, puis il n'a pas été. Puis là, le roi, il dit, « Comment se fait que le fils d'Isaïe n'est pas ici, là? » Il aurait été supposé d'être là, venir souper. Là, Jonathan, il a dit, ben là, il m'a demandé d'aller aller voir sa famille, il avait quelque chose d'important, puis j'y ai donné la permission. Puis là, il le laissait aller. Là, Saül, il était fâché, là. Il s'en est pris à Jonathan. Il dit, quand est-ce que tu vas comprendre que tant que cet enfant-là, en parlant de David, tant qu'il va vivre, là, ben il y a un risque que tu ne sois pas toi nommé le roi. Parce que pour lui, Saül, il voulait que ça soit son fils Jonathan, qu'il soit le successeur pour être sur le trône. Puis là, il faut comprendre que ce gars-là, même s'il avait été loin de Dieu, il a été rejeté, puis le Saint-Esprit s'est retiré, puis il marchait avec des mauvais esprits après lui. Puis il prenait plein de décisions mauvaises, méchantes. Puis il était dur, puis cruel. Un tyran comme roi. Puis là, il s'en est pris à son fils, la chicane a pogné, puis tout ça en même temps, Jonathan soupçonnait la chose, mais il n'était pas convaincu à 100% que son père voulait tuer David, mais là, il l'a su, là, dans ce soirée-là, il est allé voir David, puis il a dit là, c'est sûr que ça marche plus, il veut tuer, tout ça, puis là, ils se sont comme... pris dans le bras, puis ils ont pleuré, puis toute la quête, puis là, David s'est enfui. Parce qu'il avait peur. L'armée au complet de tout Israël était à ses trousses pour le tuer. Fait qu'il s'est sauvé, puis il s'en va dans une place qui est un temple. Un temple, là, pour Dieu, ce que le monde allait prier. Puis dans ce temple-là, c'est pas le temple de Jérusalem, c'est un autre temple, un autre endroit. Puis dans ce temple-là, il y avait des sacrificateurs qui étaient là puis qui servaient l'Éternel. Puis, il offrait du pain à l'Éternel, puis toutes sortes d'affaires. Puis, il faisait le service de glorifier Dieu. Puis, c'est dans ce contexte-là que, quand David est arrivé là, il a parlé à Achimélec, qui était le chef des sacrificateurs qui était là. Puis là, il dit, « Là, j'ai faim, as-tu de quoi me donner? » Puis là, il dit, « J'ai rien ici, j'ai juste les pains de proposition. » Ça, c'est les pains qui avaient été offerts à l'Éternel. Jésus en parle de ça, que David, quand il a eu faim, il a pris les pains de proposition. Mais il était là, il a dit, donne-moi-les, j'ai trop faim. Il a pris, il a mangé, il a repris ses forces, puis il a dit, as-tu une épée ici? Puis il dit, oui, encore l'épée de Goliath. Goliath, il avait été tué par David. Il dit, amène-moi-la cette épée-là, donne-moi-la, il n'y a pas de meilleure épée que celle-là. Puis là, il a demandé à Achimélec de consulter l'Éternel pour lui. Parce qu'Achimélec était sacrificateur, il pouvait invoquer Dieu, puis recevoir des révélations, puis là, il donnait des réponses. Puis là, il est parti. avec cela. Mais pendant qu'il était là, il y avait une personne qui s'appelle Doeg, l'Édomite, qu'on voit dans le texte là. Doeg, l'Édomite, qui n'était pas un gars du peuple d'Israël, un Édomite, c'est qui vient de la tribu d'Édom. Édom, c'est l'oncle de parce que t'avais Abraham, Isaac, Jacob. Mais Isaac, il y avait un frère, Isaü, puis c'est lui qui a fait une descendance qui est devenue des Édomites. C'est Édom. Puis Édom, en hébreu, veut dire le roux, parce qu'il était roux dans ce temps-là. Fait qu'il y a eu des princes arabes qui ont descendu d'Édom, mais c'était pas des gens, des descendances d'Israël. Édom, qui était comme d'une tribu, dans des tribus, qui n'étaient pas des tribus d'Israël, étaient des Arabes carrément, mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu, il était là dans le temple en train de prier Dieu quand c'est arrivé. Puis là, lui, il a entendu les choses, il a vu David, il a vu Achimélec, puis lui, il savait que le roi Saül voulait courir après David, il a vu Achimélec aider David, même si c'était pas permis. Fait que lui, il est allé retourner voir Saül. C'est dans ce contexte-là qu'on parle aujourd'hui de l'Édomite, de Doeg l'Édomite. Puis ça dit, dans le verset 1 qu'on est en train de lire, au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg l'Édomite vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. C'est dans ce contexte-là que le psaume a été écrit. Dans les suites de cette rencontre-là dans la maison d'Achimélec. Dans ce chant-là, David il dénonce deux choses en fin de compte. Il dénonce, en parlant de Saül, il dénonce loin de Dieu qui est déchu. C'est ça qu'on va voir dans des versets. Il est en train de dire dans ce psaume-là que loin de Dieu, il est déchu, puis il marche plus dans les voies de Dieu. C'est ça qu'on va voir dans certains versets. Puis qu'il s'enfonce de plus en plus dans le péché. Saül, là, dans ses décisions qu'il a prises de se rebeller contre Dieu, puis même les mauvaises décisions qu'il a prises après, ça ne l'a pas rapproché de Dieu, ça l'a éloigné encore davantage. Mais le fait que Saül, qui était un loin de Dieu, sa conduite méchante, en plus que lui s'enfonçait dans le péché, mais ça l'a entraîné avec lui Doeg l'Édomite. Parce que Doeg l'Édomite, même s'il est un arabe, il aimait Dieu. Il était dans le temple de Dieu quand David y a été. C'était comme si c'était un nouveau converti ou quelqu'un qui était là depuis un bout. Mais il est important parce que on voit que Doeg l'Édomite, il avait le contrôle, il avait été donné une autorité dans le royaume d'Israël. C'était un poste très élevé. Mais le point est que c'est un étranger qui était dans le temple en train de s'approcher, prier Dieu, louer Dieu, vouloir marcher avec Dieu, apprendre à connaître la parole de Dieu. Puis là, David arrive là, l'autre le voit. Jusqu'à là, il n'y a rien de mal. C'est qu'est-ce qui se passe après quand Doeg est allé voir le roi? Qu'est-ce qui s'est passé là qui a tout dérangé la situation? On va le voir dans les versets. La première mention dans la Bible en parlant de Doeg l'Édomite, c'était en présence du sacrificateur Achimélec. Puis ça dit, Achimélec et David, ils étaient ensemble. Puis c'est là qu'il en parle pour la première fois dans la Bible. De ce gars-là. Il a vu David, mais il était quand même un gars qui aimait Dieu. Vous allez voir tantôt que, enfin, dans la conclusion de tout l'ensemble, les décisions qu'on prend, elles ont une grande importance, parce que ça donne un impact même sur d'autres qui sont autour de nous, puis ça peut affecter que l'autre aussi tombe sur un jugement de Dieu à cause qu'il va nous avoir écoutés. C'est pour ça que le but de tout ce psaume-là, c'est de nous faire prendre conscience de l'importance d'avoir la crainte de Dieu puis de prendre des bonnes décisions. Vu qu'on commence une nouvelle année, c'est une bonne occasion de partir sur un bon pas pour dire, mais là, Seigneur, guide-nous dans tout cela pour qu'on ne soit pas dans l'exemple de Saül. Dans 1 Samuel 21, le verset 7, ça nous parle d'un homme d'entre les serviteurs de Saül. Il se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'est un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Ça, ce passage-là, c'est en train de nous dire que Doeg avait un poste important, même si ce n'était pas un homme du peuple d'Israël. Il était un chef des bergers de Saül. Il était bien placé, puis il aimait le Seigneur, il était dans le temple, puis il louait Dieu. Ça nous montre que l'Éternel, ses bénédictions sont pour tout le monde, peu importe dans quel peuple ou ce que tu deviens. Plus tard, ce qui est arrivé, c'est que Doeg, l'Édomite, il aimait Dieu, puis il servait Dieu dans son poste de chef. Jusqu'à là, tout allait bien. Jusqu'au temps où ce qu'il a rencontré Saül, puis que Saül a commencé à y dire des choses, puis que là, il a fait une bêtise. Puis on va voir ce qui est arrivé. Dans le 1 Samuel, le chapitre 22, le verset 7, ça nous parle de ce qui se passait. Le roi Saül, là, il était tellement fâché, puis il avait comme une obsession à vouloir trouver David, à vouloir que quelqu'un dans le peuple dénonce où ce qui est caché, parce qu'il était caché quelque part, David, puis lui, il voulait le trouver absolument pour l'éliminer. Fait que là, il harcelait, le roi, il harcelait le peuple pour lui dire, arrêtez là, de prendre pour le roi David, puis dites-moi-les, vous n'avez pas de pitié pour moi de savoir que je cherche David, prenez ma part, puis dites-moi où ce qui est caché. Le roi Saül mettait de la pression. Dans 1 Samuel 22, le verset 7, on voit un peu ça, ce que Saül a dit aux gens. Il dit, Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamin, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il pour vous des chefs de mille puis des chefs de cent? » Il était en train de dire, lui, David, il va-tu faire ça pour vous autres? En voulant dire, moi, je vous le fais, je suis prêt à vous donner plein d'affaires. Écoutez-moi donc, dites-moi où ce qui est. Il est en train d'inciter, mettre de la pression pour que quelqu'un dans la gang ose dire, oh, je l'ai vu à telle place. Dans le but de peut-être en ayant comme l'idée, le roi Saül, il va me bénir, je vais me donner une belle des terres, puis il va se servir de moi encore plus pour servir. Fait que c'est ça sa bêtise qu'a faite le Doeg. Il a pris la décision d'écouter Saül. Il voyait bien que Saül, ça n'avait pas de logique qu'un roi d'Israël, loin de Dieu, veulent s'en prendre pour tuer des gens du peuple d'Israël qui ont rien fait, parce que tout le monde le savait que David, c'est un homme juste. C'est un homme qui craignait Dieu. Fait qu'il voyait bien que ça n'avait pas de bon sens, mais il s'est fait comme endormi par les paroles de Saül, puis il a dénoncé, il a trahi David sûrement pour obtenir des avantages sociaux, des faveurs. Fait qu'il a pris la décision d'écouter, parce qu'il a écouté Saül, puis il s'est rangé suivant les allusions du roi Saül. C'est là que ces allusions-là, David, lui, il fera pas ça pour vous autres, vous donner des terres, puis vous donner d'être chef. Mais il dit, moi, je vais vous le faire. Puis là, l'autre, il a tombé dans ce piège-là. Doeg, il a trahi le oint de l'Éternel. Parce qu'il ne faut pas oublier que David avait été oint comme étant le roi. Puis c'était pas secret, ces choses-là. Le prophète Samuel avait été voir le roi Saül, puis il avait dit, Dieu te rejette, il arrache ta royauté. Autrement dit, t'es fait. Tu dois débarquer, puis Dieu va oindre quelqu'un qui est meilleur que toi. C'est ça qu'il a reçu comme parole. Puis ce oint-là, c'est David, il avait été oint. Fait que si tu penses avec la pensée de Dieu, si tu es vraiment conscient que Dieu est là, puis tu veux obéir à Dieu, première idée que tu sais, le oint, c'est pas Saül, c'est David. J'irai pas travailler contre David, sinon je sais que je vais travailler contre Dieu. Si tu te ranges sur le bord des méchants pour avoir des avantages, ou puis là, tu participeras à leur crime, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Puis Doeg est comme un gars qui a manqué de discernement dans cette situation-là. Il était là, il savait que Saül voulait tuer David, puis que là, il mettait de la pression, puis il mettait des avantages sociaux, si t'embarques dans son affaire. Mais il savait que le oint, le nouveau oint, c'est David. Puis il a fait une gaffe. Il a fait un rapport au roi Saül, puis il a dit, « David, je l'ai vu chez Achimélec, le sacrificateur. » Dans 1 Samuel 22, le verset 9, il dit ça, « Doeg l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, le fils d'Achitub. » C'est un sacrificateur de Dieu, ce gars-là. Fait que lui, Doeg, il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il n'a pas eu la crainte de travailler contre le plan de Dieu. Il n'a pas eu la crainte de parler contre les hommes de Dieu, les sacrificateurs de Dieu, Achimélec. Il n'a pas eu la crainte du oint, de parler contre le oint qui était David. Il n'a pas eu de crainte de Dieu, manqué de discernement. Il a embarqué dans un piège qui l'a détruit. Il s'est allié avec un méchant. Pour mettre le comble à son péché, Saül puis Doeg, ils ont été voir Achimélec. Il était sûrement avec toute son armée. Ils s'en vont voir le sacrificateur. Puis là, il a questionné, qu'est-ce que tu as fait là? Puis comment se fait que tu as aidé David? Puis l'autre, il dit, c'est pas la première fois que je consulte l'Éternel pour David. Tout le monde sait que David, il marche avec Dieu, c'est un homme intègre, puis jamais il voudrait du mal au roi. Puis là, il dit, puis l'autre, il reprochait d'y avoir aidé, de l'avoir nourri, puis d'y avoir donné l'épée, puis d'avoir invoqué l'Éternel pour lui. Comme comble de péché, un petit péché qui en entraîne un autre, une mauvaise décision qui fait tomber le péché, mais le péché entraîne un autre péché beaucoup plus grave. Le roi a ordonné de tuer tous les sacrificateurs qu'il y avait dans ce bâtisse-là. 85 personnes ont été assassinées suite au témoignage de Doeg qui avait pris la mauvaise décision de joindre à Saül puis d'y donner un tuyau sur David. Samuel, au chapitre 22, le verset 18. Alors le roi dit à Doeg, en plus de ça, le roi dit à Doeg de les assassiner. C'est Doeg qui est obligé de les assassiner. Il avait le choix entre ça ou de perdre la vie. Parce qu'hier, elle a dit non, moi je ne toucherai pas au sacrificateur de l'Éternel. Ben, il a pas risqué sa vie. Il est parti puis il a tué les 85 sacrificateurs de Dieu. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il était là, dans ce bâtisse-là, une couple de semaines avant, là, en train de prier Dieu avec tout ce monde-là. Puis quand David est arrivé là, Doeg était là, puis il priait l'Éternel avec tous ces prophètes-là, avec tous ces sacrificateurs-là. Puis là, il écoute encore le roi d'assassiner tous ses amis, ses hommes qui croyaient comme étant des hommes de Dieu. Voyez-vous les mauvaises décisions? T'embarques d'une mauvaise décision, tu prends position dans quelque chose, tu dis, tu t'embarques, tu te lis dans tes paroles, puis là, ça t'entraîne encore plus loin, puis plus creux, puis là, ça n'a plus de limite. Lui, là, c'est la seule limite qu'il aurait pu dire, c'est de dire à Saül, « Wow, moi, je débarque là, je touche pas à rien, puis... » L'autre, il l'aurait fait tuer tout de suite, mais au pire, je vais perdre la vie, mais j'irai pas en plus mettre la main ces sacrificateurs. Fait que ce gars-là est un converti au peuple d'Israël. Il aimait le Seigneur, servait le Seigneur. Il avait eu un poste important parmi le peuple d'Israël, en parlant de Doeg. Puis, il s'est allié aux méchants, aux tyrans. Puis là, les péchés sont rajoutés dans sa vie, un par derrière l'autre. Puis il est devenu comme un associé du roi rejeté. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Ça, c'était des sacrificateurs, des gens qui servaient à l'Éternel. Là, si on continue à lire le psaume, David, il pose une question au roi déchu dans le psaume 1. « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? » Parce que là, ce roi-là cherche à tuer David. « Pourquoi vous pensez que le tyran, Saül, cherchait à tuer David? » On en a parlé un peu tantôt, mais David, il donne une réponse, là. Il dit « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? » Il dit « La bonté de Dieu subsiste toujours. » David est en train de dire « La bonté de Dieu, arrête de te glorifier dans tes pensées méchantes, arrête de poursuivre le mal. La bonté de Dieu subsiste toujours. » Autrement dit, si tu réaliserais comment Dieu est bon, tu pourras encore te repentir et te pardonnerais. Parce que tant que tu vas pas dans le... Je parle dans le contexte d'aujourd'hui. Tant que tu vas pas jusqu'à blasphémer le Saint-Esprit, si tu es retourné dans le monde et par suite à des mauvaises décisions, tu peux revenir à l'Éternel. Les bontés de Dieu subsistent toujours. On voit ça dans le Nouveau Testament, cette phrase-là. Puis c'est dit dans Romains, au chapitre 2, le verset 4, que la bonté de Dieu, si tu réaliseras comment Dieu est bon, ça sera dans le but de te conduire à la repentance. Dans Romains, il dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longévité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Quand tu prends conscience comment Dieu il est bon, même si tu es dans une mauvaise passe, tu es rendu là que ta vie elle descend, tu te cales, puis tu prends des décisions qui t'embarquent de plus en plus, comme le roi Saül. David, il shoot. Oublie pas, la bonté de Dieu subsiste toujours. Tu pourrais arrêter de suivre tes pensées orgueilleuses, puis de te tourner à demander que Dieu te fasse grâce. Ça t'amènera à la repentance, mais lui, il l'avait oublié. Puis ça n'a pas eu d'impact dans sa vie, cette idée-là. Saül, il était devenu un ouin rétrograde, très méchant, méprisant Dieu et son œuvre. Parce que il y a plusieurs étapes dans la rébellion contre Dieu. Tu peux être ignorant de ce que Dieu pense. Tu peux être quelqu'un qui connaît Dieu, qui sait qu'il y a un Dieu, mais est encore rebelle à Dieu. Tu veux pas te joindre à lui. Mais il y a d'autres étapes aussi que tu peux être quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui prend de mauvaises décisions. Puis tu te rebelles à sa parole, tu te rebelles à son plan, tu te rebelles à sa volonté. C'est aussi grave ça, là, parce que tu rentres pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Ça t'empêche de porter les fruits que Dieu avait préparé d'avance pour toi. Fait que ce ouin-là, il avait été comme décrit dans le psaume, on voit ça entre les versets 2 à 4, comment que ce ouin-là, quand vous lisez ça, voyez-le comme si c'était supposé être un homme saint, un homme droit, un homme juste, parce qu'il craignait l'Éternel. Il était ouin de l'Éternel, il avait l'esprit de l'Éternel en lui, Saül. Mais il était loin de marcher dans la communion de l'Esprit de l'Éternel. Dans le psaume 52, 2 à 4, il dit « Ta langue n'invente que malice. » Ça veut dire, dans sa bouche, là, les paroles, c'était juste pour faire du mal. Quand tu es rendu, même si tu connais Dieu, mais que ta vie, c'est toujours de prononcer du mal dans ta bouche. Comme un rasoir affilé, parce que les paroles tranchent, puis blessent le monde, puis ils font du mal partout quand tu rouvres la bouche. Fourbe que tu es. Puis regardez bien celle-là, ça m'a touché. Ça. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Ça veut dire quand tu es rétrograde, là, tu peux être une personne qui aime le mal au lieu d'aimer le bien. Un homme de juste, un homme de bien, cherche le bien. Mais quand tu es rendu rétrograde au point que t'aimes mieux le mal, t'aimes mieux faire du mal que de faire du bien. Quand t'es rendu quasiment gêné de faire du bien, mais que t'as du plaisir à faire du mal. Ça se vit, ça. Il y en a du monde comme ça autour de nous. Ils rouvrent la bouche, puis c'est toujours des blessures, puis ils font mal à tout le monde quand ils parlent. parce qu'il aime le mal plutôt que d'aimer le bien. Tu peux être un gars qui a connu Dieu, puis être rendu comme ça. C'est ce que le roi Saül était. Il dit, il aimait le mensonge plus que la droiture, parce qu'il connaissait le plan de Dieu. Dieu lui avait dit, tu es tassé comme roi, puis j'en mets un autre. Il aurait dû tout simplement dire, Seigneur, j'obéis à ta voix, je débarque, que l'autre prenne ma place. Ça, il aurait accompli la volonté de Dieu, mais il s'obstinait à vouloir rester là par la force, comme un tyran qui domine les autres, puis qui écrase les autres. C'est ce qu'il a vécu, ce gars-là, qui était rendu de même. Il dit, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Puis là, David, dans ce psaume-là, il a donné une prophétie dans son psaume. C'est inspiré par le Saint-Esprit, puis c'est accompli. Il prononça que le jugement de Dieu viendrait sur Saül. Il dit au verset 5, « Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira, puis t'enlèvera de ta tente, puis te déracinera de la terre des vivants. » Puis on le sait, c'est arrivé, Saül, il est mort au combat pendant une guerre, puis il a été enlevé de sa tente, puis il a pas fini ses jours en paix comme David a fini ses jours en paix. Il a été assassiné, puis Dieu l'a pas protégé. C'était même voulu par Dieu dans un sens que cette guerre-là se fasse, dans le but que ce soit son jugement qui s'en vienne. Comme je vous disais tantôt que ces psaumes-là, ils ont été écrits, puis il y avait une profondeur d'enseignement, des instructions spéciales importantes que les Juifs tenaient beaucoup à cela. Mais au verset 6, on voit que ces paroles-là ont touché beaucoup de cœurs, parce que ça fait quand même peut-être 2500 ans que ces psaumes-là ont été écrits, là. Ça fait longtemps, là. Puis c'est encore aujourd'hui, 2500 ans après, c'est encore lu. Méditer, prêcher, on l'a prêché ici à Beauharnois, puis je pense pas que je suis seul. Regardez dans le verset 6. Les justes le verront, en parlant de ce que le jugement de Dieu était pour abattre, tomber sur Saül, puis l'abattre à cause qu'il s'est rebellé contre Dieu. Il dit, les justes le verront, puis auront de la crainte. Voyez-vous que ça fait quand tu étudies la parole, puis que t'apprends là comment ça marche dans le royaume de Dieu. Ça t'amène à avoir de la crainte, puis de faire attention, pas te faire piéger, comme Doeg, qui est un nouveau converti, il a suivi le méchant plutôt que de marcher dans la voie droite. Il dit, les justes le verront, puis auront de la crainte, puis feront de lui un sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur. C'est ça qui arrivait à Saül. Il prenait plus Dieu comme protecteur. Pour lui, c'était son bras, son épée, puis il était prêt à tuer tout le monde. Il se confiait plus en Dieu. Mais il se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Comment est-ce qu'il y en a de gens rétrogrades qui continuent à prospérer dans leur vie terrestre, mais Dieu n'est plus avec eux. Puis, ça va. La fin, il faut que tu regardes la fin de l'histoire. C'est que si les gens se rebellent contre Dieu puis s'éloignent de Dieu, ils rentreront pas. C'est de valeur à dire, mais c'est ce qui est arrivé à Saül. Les deux derniers versets qu'on va regarder, ça nous donne la recette en quatre points pour être un chrétien verdoyant. Parce que dans ce verset-là, c'est comme si le chrétien il est comparé à un arbre. C'est pas la seule place qu'on voit ça dans la Bible, il y a d'autres versets. Mais le chrétien est comme un arbre, puis il porte des feuilles. Après ça, il porte ses fruits en sa saison. C'est ça qui est la vie d'un chrétien, en caricature. Là, si on regarde les deux derniers versets, le verset 8 et 9, là, ça parle comment est-ce que David lui voyait la vie. Puis dans ce qu'il décrivait là, c'était « marche de cette façon-là, puis c'est sûr que Dieu va être avec toi, puis tu vas porter du fruit dans ta vie. Tu vas être le contraire de ce qui est arrivé à Saül puis à Doeg. » Il dit, « Et moi, David qui parle, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Êtes-vous dans la maison de Dieu? Êtes-vous des gens qui aiment être dans la présence de Dieu?
Oui.
si votre vie à verdois, là, c'est parce que vous vous tenez dans la maison de Dieu. C'est là que ça se passe. La bénédiction. Dans d'autres psaumes, tu vois, je pense que c'est l'autre psaume après. David, il est encore en train de parler que Saül le persécute. Puis il dit, ça serait un ennemi, là, je m'en foutrais d'un sens, mais c'était celui que je montais à la maison de l'Éternel avec, puis je m'en allais là pour glorifier Dieu ensemble, puis c'est lui qui m'attaque aujourd'hui. David avait du plaisir avec le roi Saül de monter dans la maison de l'Éternel à aller glorifier Dieu. Imaginez quand c'est une personne rétrograde de même qui est rendu celui qui t'attaque puis qui veut te tuer. Mais lui, David, il dit, moi, là, je suis un olivier verdoyant. Les feuilles sortent. La bénédiction de Dieu, même si ça va mal dans sa vie, intérieurement, il y a eu des moments que c'est sûr qu'il était stressé, mais il sentait sous la bénédiction de Dieu. Il dit, encore je vais vous lire les deux versets d'un shot, là. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. C'est vrai que le nom de l'Éternel est favorable. Mais pour voir qu'il y a d'autres versets qui parlent de l'idée qu'on est des arbres avec des feuilles, il nous dit qu'on est comme un olivier verdoyant. Dans le psaume 1, le verset 3, 1 à 3, ça dit « Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants. » Contrairement à Doeg, il a marché selon le conseil des méchants. Il est rentré dans le plan des méchants. Il dit « Heureux l'homme qui marche pas dans le conseil des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Voyez-vous là où ce que Dieu veut en venir avec cela? Ça va ensemble, ça. Doeg, il s'est assis sur le banc des moqueurs, puis il a fait une alliance avec les méchants. Ça l'a conduit à la perdition. David, lui, il se confiait dans l'Éternel. Puis il s'abreuvait de la présence de l'Éternel. Il se tenait dans la maison de l'Éternel. Il savait que c'était là qu'était la bénédiction, puis il le vivait, puis il l'a écrit dans plusieurs psaumes, dans plusieurs textes que David a écrit, comme le psaume 1, le verset 3. Quand tu marches avec Dieu, puis tu demeures dans sa parole, il dit, t'es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, puis dont le feuillage ne se flétrit point. Tes feuilles viennent jamais toutes secs parce qu'il manque d'eau. T'es connecté sur l'eau direct, t'es près du courant, tu t'abreuves continuellement. Il peut faire chaud dans le désert, mais toi, t'es planté dans l'oasis où il y a de l'eau, puis tu t'abreuves de l'Éternel. Il dit, nous, si on marche avec le Seigneur, puis on reste proche avec le Seigneur, on est comme ces arbres-là, en train de s'abreuver du Seigneur, puis être toujours restauré, être toujours béni. Il peut faire chaud, ça peut aller mal, mais tes feuilles sont toujours là, puis tu donnes tes fruits en ta saison, parce que tu es connecté, voyez-vous. Dans cela, on voit aussi qu'on doit persévérer à mettre notre confiance à Dieu. Au verset 8, il dit, « Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Il persévérait sans arrêt à se confier dans la bonté de Dieu. C'est ça qu'il a dit à Saül. Il dit, « La bonté de Dieu subsiste toujours. » Mais lui, David, il savait que Dieu est toujours bon. Puis il renouvelle ses bontés à chaque matin. Dieu est toujours prêt à nous bénir. Mais David, il avait compris ça, puis il lui dit, moi, je me confie dans la bonté de l'Éternel. Je mets ma confiance que Dieu, il est bon, puis il va toujours me bénir. Dieu m'aime, puis Dieu va me bénir. Puis je veux rester confiant que je vais toujours être renouvelé dans les bontés de Dieu. parce qu'il voulait rester avec Dieu, puis croyait en Dieu, puis mettait sa confiance en Dieu. Puis, un autre beau point qu'il faut avoir aussi dans notre vie, c'est d'être reconnaissant en remerciant Dieu pour ses bienfaits. Dans nos versets 9, il dit, « Je te louerai toujours parce que tu as agi. » Premièrement, pour dire une parole de même, il faut que tu aies vu Dieu agir dans ta vie. Là, il dit, « Je te louerai toujours, pas parce que ce que tu as fait aux autres, pour ce que tu as fait premièrement aussi dans ma vie, faut que tu sois conscient. Voyez-vous la main de Dieu dans votre vie? Voyez-vous Dieu vous bénir? Vous recevez-vous ses rafraîchissements, ses restaurations, sa paix, sa joie, ses paroles encourageantes, ses bénédictions? Si vous les vivez, là, vous pouvez ouvrir la bouche comme David. Il dit, je te louerai toujours. Ça, c'est de la louange sans arrêt. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras. Parce que Dieu, il renouvelle ses bontés. Si tu mets ta confiance que Dieu va te bénir, tu vas les recevoir, ses bénédictions, puis tu vas avoir toujours la bouche ouverte pour dire des bénédictions de Dieu, ses louanges, puis l'adorer. Merci, Seigneur. Puis le dernier point qu'on regarde au verset 9, c'est de continuer à croire et à confesser le nom de Dieu dans l'assemblée des fidèles. Au verset 9, il dit, « Je veux espérer en ton nom. » Nous, le nom de Dieu, il a été révélé. Toutes les bénédictions de Dieu sont dans un seul nom. Jésus. Il dit, je veux espérer en ton nom. C'est ce qu'on est en train de faire. On espère dans le nom de Jésus, Yeshua, mais alias Jésus. Je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Quand on est dans l'assemblée des fidèles, dans la présence des fidèles, c'est ceux qui marchent dans leur attachement envers Dieu, qui aiment Dieu, qui croient aux bontés de Dieu, qui croient aux promesses de Dieu, qui croient au nom de Dieu. On est là-dedans. On croit en Jésus, on croit en ses promesses, on croit en sa parole, on expérimente des choses. La même chose que David vivait dans ce temps-là, on le vit encore aujourd'hui. Fait que je veux espérer dans ton nom. Êtes-vous capable de dire ça? Je veux espérer dans ton nom. Je veux espérer dans ton nom. On veut espérer dans le nom de Jésus. Parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Fait que vous êtes à la bonne place dans la présence de Dieu pour recevoir les bénédictions de Dieu. Prions.